إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue la lecture et l'explication du livre sur le mérite de l'islam écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre qu'il a intitulé « Chapitre sur l'obligation d'entrer entièrement en islam et de délaisser toute autre religion ». Donc le Shir, rahimahullah ta'ala, a voulu démontrer à travers ce chapitre que l'entrée en islam doit se faire entièrement. C'est-à-dire que le musulman se doit d'accepter entièrement la religion de l'islam et se conformer à l'ensemble des lois de l'islam. Et il n'est pas possible de n'accepter qu'une partie de la religion et d'en rejeter une autre partie. Ceci est donc la différence entre ce chapitre et le chapitre que l'on a vu dans un cours précédent. Il nous dit donc qu'il est obligatoire d'entrer entièrement en islam et de délaisser tout le reste, de délaisser toute autre religion. Car il n'est pas possible pour toi d'entrer entièrement en islam tant que tu n'auras pas délaissé entièrement toute autre religion. Donc, il nous incombe à tous de délaisser tout ce qui s'oppose à l'islam afin de pouvoir entrer pleinement dans cette religion. Il a mentionné différents versets et des hadiths à ce sujet. Le premier verset est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 208 de Surat al-Baqarah, dans lequel il a dit « Ya ayyuhalladina amanu udkhulu fis-silmi kaffah » « Oh vous qui croyez, entrez pleinement dans l'islam » c'est-à-dire acceptez entièrement l'islam. N'en prenez pas seulement une partie en délaissant une autre partie, mais acceptez la religion dans son intégralité. Car celui qui n'accepte qu'une partie de l'islam et qui renie une autre partie et la rejette, alors celui-ci, il n'est pas musulman. Car ceci relève de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 150 de Surat An-Nisa « Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulih » وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, c'est-à-dire un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, « Oulaika humul kafirun haqqa » Ceux-là sont les vrais mécréants. C'est-à-dire que celui qui croit seulement en certains messagers, ou en certains livres, ou seulement en une partie de la religion, et qui renie le reste, alors celui-ci c'est comme s'il avait mécru en la religion dans sa totalité. Car il est obligatoire d'accepter la religion dans son intégralité, et pas seulement une partie. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, au verset 85 de Surat al-Baqarah, « أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ » Croyez-vous donc en une partie du livre, et vous rejetez le reste ?« فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voyez donc à travers cela qu'il est obligatoire pour le musulman d'accepter l'islam dans son intégralité. C'est-à-dire que tu as la ferme conviction que toute la religion est vérité. Et tu mets en pratique de cette religion tout ce dont tu es capable autant que possible. Crains Allah autant que tu peux. Et s'il y a certaines choses dont tu n'as pas les capacités, l'essentiel est que tu y crois. Et que tu saches que ceci fait partie de la religion. Même celui qui est dans le péché, à qui il arrive de délaisser parfois certaines obligations, que ce soit par paresse ou suivi des passions, il est impératif qu'il croie que ceci fait partie de la religion. Car s'il renie l'obligation d'une chose qu'il délaisse, alors son reniement est une forme de mécréance. Et le musulman doit prendre garde à ne pas choisir de la religion ce qui lui convient. Et certaines personnes, lorsqu'ils parlent de religion, ils n'acceptent que ce qui correspond à leur désir, à leur passion. Et tout ce qui s'oppose à leur passion, ils le délaissent. Et ceci est strictement interdit. Et ceci n'est pas suffisant pour concrétiser l'islam. Mais il est obligatoire d'accepter la religion de l'islam dans son intégralité et d'y croire entièrement. Donc ceci est le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. « Ya ayyuhalladina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah. » Ô vous qui croyez, entrez pleinement dans l'islam. C'est-à-dire accepter l'islam dans sa totalité. N'en prenez pas seulement une partie en dehors d'une autre en fonction de vos passions ou de vos désirs. En ne prenant que ce qui vous plaît et en délaissant ce qui vous déplaît ou vous dérange. Non, il est obligatoire d'accepter l'islam dans son intégralité. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un second verset, qui est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au verset 60 de surat An-Nisa. « Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik » يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi? Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Et ils veulent prendre pour juge le tarout. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala a voulu nous démontrer ici qu'il fait partie du fait d'entrer entièrement en islam, de prendre pour arbitre le Coran et la Sunna dans l'ensemble de nos affaires. De prendre pour juge le livre d'Allah et la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de délaisser tout autre que cela. Car ceci fait partie de l'islam. Regarde ici comment ils qualifient leur foi comme étant une prétention. C'est-à-dire un mensonge. Pourquoi? Car ils prétendent croire en ce qu'on a fait descendre sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils veulent prendre pour juge le tarout, autre que le Coran et la Sunna. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Alors qu'il leur a été ordonné d'y mécroire, de renier le tarout. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc le musulman, dans toutes ses affaires, il doit prendre pour juge le Coran et la Sunnah. Car l'islam n'est pas une simple prétention. Mais il est obligatoire d'accepter cette religion dans son intégralité. Et parmi cela, les lois de l'islam, les règles de l'islam, les rites de l'islam. Tout ceci, tu te dois de l'accepter en tant que musulman. Et médite sur le fait ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cela de menteur en disant qu'ils prétendent croire en ce qui est descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car ils veulent prendre pour juge le tarout. Ils veulent prendre. Il n'a pas dit ils prennent pour juge le tarout. Mais ils veulent prendre. C'est-à-dire ils en ont l'intention. Seulement l'intention. Alors que dire s'ils l'avaient fait? Il n'y a pas de doute que ceci sera encore plus grave. Mais le simple fait de vouloir prendre pour juge le tarout et de vouloir prendre pour juge autre que le Coran et la Sunna, en ayant pour conviction que ceci est permis, ou que ceci est équivalent, ou que ceci est meilleur, alors ceci suffit pour sortir de la religion de l'islam. Vous comprenez donc aujourd'hui que ceux qui se dirigent vers les tribunaux des mécréants pour régler leurs conflits, en délaissant volontairement les règles religieuses prescrites au sujet de leurs conflits, que ce soit une affaire de mariage, de divorce, un conflit commercial ou autre. Il y a certaines personnes, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide l'ensemble de nos frères et sœurs à la droiture. Lors d'affaires de divorce, par exemple, ils ne reviennent pas à ce qui est légiféré dans le Coran et la Sunna. Mais ils vont se satisfaire des jugements, des tribunaux, de pays mécréants. même si ce jugement s'oppose à ce qui est légiféré dans la religion, même si ce jugement donne à un des partis un droit qui ne lui revient pas en islam, que ce soit un droit financier ou un droit de garde ou autre chose semblable. Wallahi, ceux-là, ils sont en grand danger. En acceptant ce jugement, ils se mettent en grand danger pour leur religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, de les guider. Il ne faut pas penser que c'est une chose anodine. En tant que musulman, tu te dois de revenir aux règles de ta religion et faire prévaloir les règles de l'islam avant toute chose. Bien sûr, il se peut que tu aies besoin d'avoir recours à certaines démarches administratives, mais au préalable, en tant que croyant, tu dois te renseigner sur tes droits et tes devoirs religieux. Ceci est indispensable. Et tu n'as qu'à méditer sur ce verset pour comprendre la gravité de cet acte. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Et ils veulent prendre pour juge le Tarout. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre verset, qui est le verset 159 de Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay » Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là, tu n'es responsable en rien. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit, nous met en garde et nous interdit la division en religion. Le fait de se diviser en sectes, le fait de se diviser en groupes, en confréries, et ainsi de suite. Tout ceci est interdit dans notre religion. Car les musulmans sont un seul groupe. Ils sont le parti d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne doivent pas se diviser en sectes, se diviser en groupes, se diviser en confréries. Chacun se fanatisant pour son cheikh, pour son parti, pour son gourou, pour sa confrérie ou je ne sais quoi. Non, ceci est interdit. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné cela ici car le fait de se diviser en sectes va forcément amener à délaisser une partie de la religion. Car si chacun de ces groupes et chacune de ces sectes acceptait entièrement la religion de l'islam, alors nous ne serions pas divisés. Mais la cause de cette division est le délaissement et l'opposition à une partie des règles de la religion. Donc ce verset, il nous prouve l'obligation d'entrer entièrement dans la religion, et de ne rien en délaisser, et de ne s'opposer à aucune règle de la religion. Et telle est la situation de ceux qui ont émietté leur religion et se sont divisés en sectes. Chacun se réjouissant de la situation dans laquelle il est, chacun traitant les autres d'égarés, chacun pensant être le groupe sur la vérité, et ainsi de suite. Et ceci est interdit entre les musulmans. Et ceci relève des préceptes de la Jahiliya, de la période pré-islamique. Les musulmans se doivent d'être un seul groupe, d'être unis sur la vérité. Et bien sûr, il est possible que l'on diverge. Il est possible que on soit parfois en désaccord. Mais qu'est-ce qu'il nous incombe dans cette situation? Lorsque tu diverges avec ton frère, lorsque tu diverges avec ta sœur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir au Coran et à la Sunna. Et tu trouveras le remède à cette divergence. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans son noble livre, verset 59 de Surat An-Nisa, « فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » Et si vous divergez en quoi que ce soit, quelle que soit cette divergence, aussi minime soit-elle, alors renvoyez cela à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran, et au messager, c'est-à-dire à lui-même de son vivant, et après sa mort à sa sunnah. Donc renvoyez cela au livre d'Allah, et à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela un signe de la foi véridique et de la perfection de la foi. Le fait de revenir dans nos conflits, dans nos divergences, dans nos désaccords, à ce qui est venu dans le Coran et la Sunnah. Et ceci est une obligation pour les musulmans. Nous devons être unis, n'être qu'un seul groupe. Mais si on diverge et qu'on est en désaccord, alors on revient ensemble au Coran et à la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne doit dire « Non, moi je ne veux plus m'unir avec ces gens-là, je ne veux plus entendre parler d'eux, je ne m'assois pas avec eux, je ne me réunis pas avec eux. » Non, à partir du moment où ton frère, t'appelle à revenir au Coran et à la Sunna, à prendre pour arbitre le livre d'Allah, la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire que tu acceptes cela. Mais certaines personnes se fanatisent. Ils se fanatisent pour leur groupe, ou parfois, ils sont tombés dans une erreur et l'orgueil les empêche de revenir à la vérité. Tu l'appelles à revenir, mais il ne veut plus. Car il a honte de dire « je me suis trompé ». Alors il reste dans son erreur, il s'entête et persiste dans le faux. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes. « Lasta minhum fi shay » De cela, tu n'es responsable en rien. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son messager sallallahu alayhi wa sallam de ces gens qui se divisent en sectes. Ceci nous montre la gravité de cet acte, la gravité de la division. Aujourd'hui, il y a des gens, ils se réjouissent de la division. Ils se réjouissent de diviser les musulmans. Ils pensent que ceci est une preuve de fermeté ou de jalousie pour la religion. Beaucoup d'entre eux ne sont que des ignorants, qui ne connaissent que très peu de choses au sujet de leur religion, au sujet de la voie droite. Et ils divisent les musulmans et font de cela une chose de laquelle ils se vantent. Wallah al-musta'an. Donc les musulmans doivent être un seul groupe, rester unis sur la vérité. Et en cas de désaccord et en cas de divergence, revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont la position et la vie est conforme à ce qui est venu dans le Coran et la sunna, on se doit d'accepter son avis et d'accepter sa parole, qui qu'il soit, même si c'est une personne que tu n'apprécies pas, même si tu penses que ce n'est pas le plus savant, même si ce n'est pas un savant de ton pays, car certaines personnes aujourd'hui, ils disent « non, je ne prends que des savants de mon pays ». Et ceci est une forme de fanatisme interdite relevant des préceptes de la jahiliya, comme on en a parlé hier. Non, tu prends la vérité d'où qu'elle te vienne. Peu importe l'origine du savant, peu importe la place qu'il occupe dans ton cœur, même s'il ne fait pas partie des savants pour qui tu as une grande estime. À partir du moment où il est venu avec la vérité, conforme au Coran et à la Sunna, tu te dois de l'accepter et ne pas te fanatiser pour ton groupe ou pour ton cheikh ou pour les gens de ton pays, car tout ceci relève des préceptes de la jahiliya. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, et Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, a dit, au sujet de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوه وَتَسْوَدُّ وُجُوه, au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, les visages des gens de la sunna et de l'union s'éclaireront, et ceux des gens de l'innovation et de la division s'assombriront. Allahu Akbar. Les visages des gens de la sunna et de l'union s'éclaireront, et ceux des gens de l'innovation et de la division s'assombriront, en raison de leur pratique de l'innovation, en raison de leur division et de leur éloignement du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Leurs visages s'assombriront au jour de la résurrection. Et je vous invite à méditer les versets qui précède ce verset. Dans Surat Ali Imran, à partir du verset 100, dont on va lire seulement la traduction des sens rapprochés, qui est « Ô vous qui croyez, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, ils vous rendront mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités, et qu'au milieu de vous se tient son messager, quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission, en étant soumis pleinement à Allah, en acceptant entièrement la religion. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. » Qu'est-ce que le câble d'Allah? C'est le Coran, l'islam, son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cramponnez-vous tous ensemble à la religion d'Allah, au Coran et à la sunna. Et ne soyez pas divisés. Ne vous divisez pas en groupe, ne vous divisez pas en secte, car la division en religion est interdite. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes, afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Ensuite, après nous avoir interdit la division et nous avoir ordonné de nous cramponner à son câble, c'est-à-dire au Coran et à la sunna, Il nous interdit de ressembler aux communautés précédentes qui se sont divisées en religion et il dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves leur furent venues. Après avoir reçu la révélation, ils n'ont pas pris pour arbitre la révélation. Comme ceux qui aujourd'hui ne prennent pas pour arbitre le Coran et la Sunna. Et qui se fanatisent pour leurs opinions, pour leurs passions, pour leurs groupes, pour leurs chiens, pour leurs sectes et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ceux-là auront un énorme châtiment. Quand aura lieu ce châtiment? يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. Donc Ibn Abbas, il a expliqué ce verset de cette manière. En disant que ceux dont les visages s'éclaireront, ce sont les gens de la Sunna, les gens de l'union. Ceux qui sont restés unis sur le Coran et la Sunna. Quant aux visages qui vont s'assombrir, ce sont les visages des gens de l'innovation et de la division. Car l'innovation est forcément liée à la division, car elle divise. Celui qui ne prend pas pour juge le Coran et la Sunna, alors il sera forcément dans la division, dans la discorde, dans la confusion même. Telle sera donc leur situation au jour de la résurrection. S'ils refusent de revenir à la vérité, de se repentir, et qu'ils restent sur la division et se fanatisent pour leurs opinions, leurs visages s'assombriront au jour de la résurrection. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Quant à ceux qui se sont réunis sur la vérité, et qui ont mis fin à leur discorde, à leur divergence, en revenant au Coran et à la Sunna, alors cela, leurs visages s'éclaireront au jour de la résurrection. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un hadith immense à ce sujet, il a dit. D'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhumah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il arrivera à ma communauté ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, pas à pas, au point que si l'un d'entre eux avait un rapport publiquement avec sa mère, il y aurait dans ma communauté quelqu'un qui ferait cela. Les enfants d'Israël se sont certes divisés en 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Ils iront tous au feu, sauf un seul groupe. » On lui dit, « Lequel est-il, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Ceux qui sont sur ce quoi je suis moi et mes compagnons. » Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa bienveillance envers sa communauté, il nous a avertis contre des événements qui se produiront à la fin des temps. Il nous a donc informés de certains méfaits et il nous a clarifié la voie pour être épargnés de ces méfaits. Donc il nous dit que les enfants d'Israël se sont divisés. Et on a vu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui interdit la division et qui nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves leur furent venues. Mais étant donné que la division s'est produite chez les enfants d'Israël, alors elle se produit inévitablement dans cette communauté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé dans ce hadith. Et ceci s'est certes produit. Et la communauté s'est divisée en groupes et en différentes sectes. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui nous permet d'obtenir le salut face à ces troubles et de savoir quelle est la voie à emprunter, qui est de revenir à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc, lorsque les troubles surviennent, et que se produit la division, la discorde et la divergence entre les musulmans, il est obligatoire pour chacun d'entre nous de ne pas se fanatiser et de veiller à suivre les preuves du Coran et de la Sunna afin d'être épargné de ces troubles, de ce mal et de ces divergences. Donc cette information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée ici, c'est afin de nous mettre en garde et de nous indiquer la voie du salut. Car il savait sallallahu alayhi wa sallam que ceci se produirait dans sa communauté, car Allah subhanahu wa ta'ala l'en avait informé. Et nous a mis en garde également dans ce hadith contre le suivi des juifs et des chrétiens, de les prendre pour modèles, de les imiter. Et nous a averti que il y aurait des gens dans sa communauté qui les suivraient, les prendraient pour modèles, au point que même s'il commettait les péchés les plus ignobles, les plus immondes, il y aurait des gens qui les commettraient. Et regardez la situation aujourd'hui de beaucoup de personnes parmi ceux qui s'affilient à l'islam et qui prennent pour modèle les gens les plus pervers, parmi les célébrités et autres, les footballeurs, les chanteurs, les acteurs et ainsi de suite. Ils les imitent dans leur manière de vivre, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de se coiffer, dans les moindres détails. Même si l'un d'entre eux fait une chose insensée, il trouvera des gens qui vont le suivre en cela. Même parmi ceux qui s'affilient à cette religion, Allah al-Musta'an. Regardez simplement dans leur coupe de cheveux. Ils font des coupes de cheveux insensées, se rasent une partie de la tête, ils en laissent une autre partie, ils mettent des couleurs ou je ne sais quoi. Ils trouvent des gens qui vont l'imiter en cela. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a avertis et nous a mis en garde contre le fait de s'assimiler aux juifs et aux chrétiens. Car ceci est un grand danger pour les musulmans. Car ceci indique le fait qu'il aime ces personnes, qu'il est émerveillé devant eux, qu'il les suit. Et ils pourront venir alors à les suivre dans leurs croyances et leur religion, al-ayyadu billah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donc informés de cette division qui a eu lieu dans les communautés qui nous ont précédés, et cette division qui a aujourd'hui lieu dans cette communauté. Et la voie du salut, pour être épargné de cette menace du feu de l'enfer qui pèse sur les partisans de ces sectes, c'est de revenir à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il n'y a aucun chemin menant au salut ici-bas et dans l'au-delà si ce n'est par le suivi du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté rahimahumullah ta'ala. Et celui qui refuse cela et qui emprunte une autre voie, quelle que soit cette voie, qui suivent la voie des Jahmiyyah, la voie des Mu'tazila, la voie des Soufiyyah, la voie des Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, la voie d'établir, ou autre parmi les sectes, alors ceux-là sont sous la menace du feu. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils vont y rester éternellement, car tant qu'ils sont musulmans, tant qu'ils ne commettent pas des choses qui les font sortir de l'islam, alors ils ne resteront pas éternellement en enfer. Mais ils sont sous cette menace sévère. Et ceci suffit à la personne pour comprendre qu'elle se doit de s'éloigner de tous ces groupes et toutes ces sectes qui divisent les musulmans. Et de revenir à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. L'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir cité ce hadith, il nous dit que le croyant qui espère la rencontre d'Allah médite donc sur la parole du véridique et qu'il médite ici surtout sur sa parole ceux qui sont sur ce quoi je suis moi et mes compagnons. Ceci est une exhortation touchante si seulement elle atteignait des cœurs vivants. Allahu Akbar. Ceci est une exhortation touchante, car ton prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, t'a informé d'un événement futur que toi tu peux observer aujourd'hui, qui est la division de la communauté en groupes, en sectes, en parties, et ainsi de suite. Et il t'a donné le remède à cela et la voie pour obtenir le salut. Et il te dit de revenir à ce sur quoi il était lui et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. C'est cela la voie du salut. De suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il ne suffit pas de prétendre être sur la vérité. Il ne suffit pas de dire notre groupe est le groupe sur la vérité, mais si celui-ci s'oppose au Coran et à la Sunna sur de nombreux fondements, alors cette prétention est mensongère. Ou certaines personnes ne font pas l'effort d'apprendre quelle est la voie du prophète et quelle est la voie du compagnon radiyallahu ta'ala anhum. Ne font pas l'effort d'apprendre cette voie, la voie prophétique. La voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ils sont ignorants de cette voix. Ils disent, moi, je fais partie du groupe sauvé, du groupe de la vérité. Il ne connaît pas cette voix. Il ne sait pas quels sont ses fondements. Ceci est un grave manquement. Tu te dois d'apprendre quelle est cette voix afin de pouvoir la suivre et de t'y cramponner. Et d'autres s'opposent volontairement à cette voix, dévient de cette voix. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus grands péchés. Il est donc obligatoire pour le musulman d'apprendre quelle est la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum et de se cramponner à cette voie et de délaisser tout ce qui s'y oppose. Et celui qui fait cela, il sera entré pleinement en islam bi'idhnillahi ta'ala. Et le musulman, il ne doit pas accepter d'être une girouette, de suivre les gens où qu'ils aillent, ou de suivre aveuglément une personne, un cheikh ou autre, et d'aller où il va, quelle que soit la direction qu'il prend. Non. Il est impératif que tu reviennes au Coran et à la Sunna, que tu reviennes à la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la voie de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et tu dois délaisser toute forme de fanatisme et toute forme de suivi aveugle et apprendre quelle est la vérité, quelle est la voie du Coran, quelle est la voie de la sunna, quelle est la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la voie de ses compagnons, et te cramponner à cela. Ceci est une obligation pour chacun d'entre nous. Enfin, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit, Al-Tirmidhi rapporte aussi ce hadith d'Abu Huraira. Il l'a authentifié, mais il ne comprend pas la mention du feu, qui se trouve dans le hadith de Muawiyah, rapporté par Ahmad et Abu Dawud, et dans lequel on trouve, il sortira de ma communauté des gens qui seront infectés par les passions, comme la rage infecte le corps du malade, jusqu'à ne laisser aucune veine ni aucune articulation sans l'atteindre. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Les passions, c'est quelque chose de très dangereux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre cela dans son livre et nous a interdit de suivre les passions. Il dit subhanahu wa ta'ala, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être garant pour lui? Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa divinité et Allah l'égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue, qui peut donc le guider après Allah? Celui à qui est parvenue la vérité, qui a connu la vérité, mais qui ne l'accepte pas et refuse de la suivre, mais qui suit ses passions, qui suit ses désirs, alors Allah subhanahu wa ta'ala le sanctionne en scellant son cœur, son ouïe, et en mettant un voile sur sa vue, wal'iyadu billah. C'est-à-dire qu'en raison de son refus de la vérité, par la suite il n'acceptera plus la vérité. On voit donc le danger du suivi des passions, qui peuvent mener à un égarement très lointain. Et observe la situation de ceux qui s'opposent à la vérité sur une question. Ils commencent tout d'abord à s'opposer à la vérité sur un point. Puis ensuite, leur égarement grandit. Puis ensuite, tu les vois petit à petit sortir de la voie des gens de la sunna. Ils commencent tout d'abord par s'égarer sur une question, à s'opposer à la vérité, à s'opposer au Coran, à la sunna, aux recommandations des grands savants. Puis ensuite, petit à petit, ils commencent à s'égarer pas à pas, à emprunter la voie des khawarij sur une question, à emprunter la voie des gens de l'égarement sur une autre question, et ainsi de suite. Et ceci en raison de leur refus de la vérité, de leur refus de prendre pour juge et pour arbitre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans toutes nos affaires. Il est donc obligatoire pour le musulman de suivre la vérité, que celle-ci soit conforme à ses passions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ La fasadati samawat wal ardu wa man fihin. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Seraient corrompus car les passions elles mènent au mal. Elles mènent à la division. Elles mènent à la corruption. Elles mènent à la discorde. C'est pour cela que si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve seraient corrompus. Donc le musulman il doit prendre garde au suivi des passions, surtout à notre époque où elles sont très répandues. Et qu'elles sont à la portée de tous. Comme il est venu dans le hadith, sortira de ma communauté des gens qui seront infectés par les passions, comme la rage infecte le corps du malade jusqu'à ne laisser aucune veine ni aucune articulation sans l'atteindre. Et le shaykh, rahimahullah ta'ala, termine ce chapitre en disant, et on a déjà vu sa parole, c'est-à-dire la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui désire propager en islam un précepte de la période pré-islamique. On a déjà vu ce hadith dans le deuxième chapitre, on l'a expliqué, et on a vu le danger de cela. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra dans le prochain cours le chapitre suivant, qui porte sur le danger des innovations, et qu'elles sont plus graves que les grands péchés. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم